N'empêche, Ciné, il nous la doit en partie, ça relaxe. Le juge a en effet tenu compte du fait que son humour ne pouvait être tendancieux, car il s'adresse à un lectorat éclairé. Or, les lecteurs dans cette affaire, c'était encore les lecteurs de Charlie Hebdo. Cependant, son directeur, Philippe Val, en licenciant Ciné, a cautionné les accusations d'incitation à la haine raciale qui ont conduit le dessinateur au tribunal et s'est montré, ce faisant, moins éclairé que ses lecteurs. Ainsi, on peut considérer que ce n'est plus le lectorat d'un journal qui continue à se repaître des élucubrations d'un directeur censeur qui est éclairé, mais le lectorat de la revue née de la scission entre Ciné et Val, lectorat qui, en continuant à accorder sa confiance à Ciné, a anticipé la décision du juge. Les lecteurs éclairés ne sont donc plus ceux de Charlie Hebdo, mais ceux de Ciné Hebdo. Autre chose, Ciné a été relaxé par le juge, mais les médias qui ont annoncé la nouvelle ont oublié de mentionner que le juge, tenant compte de la personnalité de l'accusé, a en outre ordonné qu'il soit relaxé par deux masseuses thaïlandaises. Enfin, que cette relaxe de Ciné ne détourne pas ses adeptes de leurs devoirs religieux. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est le mercredi décembre, premier jour du carême. Aussi, j'appelle non seulement les lecteurs de Ciné Hebdo, mais les Français de toute confession, ainsi que, et surtout, les Français sans aucune confession, à se réunir aujourd'hui sur les parvis de toutes les églises de France, d'où démarreront, à partir de 18h, des manifestations dans toutes les communes de France, nous rappelant que nous ne sommes que poussière et que nous retournerons à la poussière. Manifestations qui s'ébranleront au cri de « tous ensemble, ouais, ouais ». Tous ensemble, ouais, ouais.
Bonjour, c'est Ludovic de Manosque. Alors je vous laisse un petit message parce que je m'adresse aux AMG du 04, plus particulièrement ceux de Manosque parce qu'on lance notre premier café repère. Je signale qu'il y a un deuxième café repère qui se tient à Château-Arnoux le 3 mars. Ce premier café repère à Manosque, ça sera chaque dernier vendredi du mois, donc le prochain et le premier sera le 27 février à 20h. Le lieu, c'est la Brasserie des Lys. Hein. La Brasserie des Lys, c'est 51 boulevard Elémir Bourges, donc 51 boulevard Elémir Bourges à 20h. Notre premier café repère sera organisé sur autour d'un débat sur le dernier bouquin d'Ignacio Ramonet, hein, Le Crack Parfait. On a jusqu'à 1h du matin pour refonder l'avenir. Alors venez nombreux et venez à l'heure. À bientôt.
Mon message s'adresse surtout aux auditeurs, disons, qui sont pas de gauche ou de la gauche, quoi. Ceux qui se sentent un petit peu du centre et deux fois de droite et qui écoutent ton émission et qui des fois réagissent assez violemment, notamment en période de grève. La prochaine fois que vous regarderez le film Robin des Bois, que ce soit un vieux film en noir et blanc recolorisé avec Errol Flynn ou les nouvelles versions de Robin des Bois, regardez bien et vous rendrez compte qu'en fin de compte, il fait mieux vivre dans la forêt de Sherwood où tout est organisé, tout est égalitaire, ils bouffent tous ensemble, ils sont tous au même niveau que dans le château du prince local où il y a des inégalités fulgurantes. Et vous êtes tous pour Robin des Bois et vous ne viendrez pas à l'idée de rêver qu'il se fasse étriper par les sbires du notable local. Bon, enfin, je vous laisse, je vous embrasse, mais pensez-y la prochaine fois que vous regarderez Robin des Bois. Ciao, vive, portez-vous bien.
Oui, bonjour, c'est Eric du repère de l'Abbatie J'y suis de Gérardmer dans les Vosges. Donc c'est pour vous dire que le repère aura lieu, c'est pour tous les AMG, donc le jeudi 26, c'est-à-dire demain, à 20h30 au bar du Le Grattoir à Gérardmer, c'est boulevard Kelch. Et que le sujet sera bien entendu la Guadeloupe, après les excellents reportages que vous avez faits sur la Guadeloupe et la Martinique. Voilà, merci, à la prochaine, ciao, bye.
Bonjour, vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe, voici le message.
Pour changer la société, il faut faire une sélection, éliminer la racaille politique, bourgeoise et religieuse, vive la révolution culturelle. Vive Mao Zedong.
A bientôt sur les services d'Orange.
Bonjour, Christelle de Paris. Merci encore pour l'émission de Daniel Mermet, elle est absolument étonnante. Mais comme diraient mes copains de Martinique que j'ai régulièrement au téléphone, on parle plus de la Guadeloupe que de la Martinique, et là-bas c'est pas drôle non plus. Voilà. Autre petite chose, j'aimerais bien que Daniel Mermet, moi je suis formatrice en CFA, et j'aimerais bien qu'il s'interroge un petit peu sur les formations aujourd'hui des apprentis, et comment l'État s'en occupe, parce qu'il s'en occupe aussi peu avec les disparitions de taxes d'apprentissage et autres. Voilà. Alors, merci encore à l'émission, merci encore à Daniel Mermet et à toute l'équipe. Ben, aussi des choses intelligentes, politiquement souvent incorrectes, mais ça fait du bien et ça donne du baume au cœur. Au revoir.
Salut Daniel, salut les AMG. Juste un petit message pour dire que à l'époque de l'élection américaine, les journalistes et tous les experts politiques cherchaient un Obama français. Et ben ça y est, on l'a trouvé. LKP vaincra. À bientôt.
Bonjour Daniel. J'écoute depuis quelque temps les émissions qui parlent de la Guadeloupe. Les revendications paraissent légitimes car les produits sont bien plus chers aux Antilles qu'en métropole. Cependant, j'ai l'impression maintenant que ces revendications, hormis pour les 200 euros, portent sur un protectionnisme guadeloupéen et un rejet des Blancs. Donc j'aurais voulu savoir, le slogan « La Guadeloupe est à nous, pas à vous » ressemble au slogan de raciste de Le Pen, « La France aux Français ». Ça nous rappelle de mauvaises choses. Les Guadeloupéens oublient qu'en métropole, nous avons aussi le problème de nos enfants qui partent pour des universités loin de chez nous et qu'ils partent aussi vivre ailleurs car il n'y a pas de travail ni d'université dans nos régions. Merci. J'aurais aimé aussi savoir quelles sont les professions des dirigeants, des syndicalistes de LKP pour connaître leur position. Merci. Au revoir.
Merci pour vos messages et merci pour celui-là qui, à lui tout seul, résume à peu près toutes les critiques faites au mouvement qui mobilise et qui immobilise la Guadeloupe ces jours derniers, ces semaines dernières. On rentre dans la 6e semaine de grève et de mouvement. Le rejet des Blancs, à travers la formule « La Guadeloupe, c'est à nous », certains ont vu le nez de l'indépendance se profiler. On va poser toutes ces questions à Élie de Motta. Élie de Motta, vous le connaissez, c'est pas possible que vous le connaissiez pas maintenant, c'est le leader du LKP, Lianage contre Profitation, et il va répondre à toute une série de questions que vous vous posez, que nous nous posons. Il y a quelque chose qui réjouit évidemment tout le monde ici, en Guadeloupe, enfin peut-être pas tout le monde, peut-être pas cette dame qu'on vient d'entendre, cette auditrice qu'on vient d'entendre, c'est un sondage, avec toutes les réserves qu'il faut toujours faire dès qu'on prononce le mot sondage, mais enfin, ce sondage qui indique que 78% des Français trouvent justifié le mouvement social en Guadeloupe, avec 67% d'électeurs de droite et 89% d'électeurs de gauche qui sont favorables, qui trouvent justifié ce mouvement social. C'est quand même relativement étonnant au moment même où on note une chute dans les sondages de popularité du président Nicolas Sarkozy. Ça indique quand même un mouvement de l'opinion qui montre beaucoup d'attention pour les mouvements sociaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais encore une fois, toutes les réserve sur les sondages d'opinion. Les négociations doivent reprendre aujourd'hui à 15h, 15h locale, ici. On ne sait pas trop, on dit oui, ça va s'arranger, on ne sait pas trop ce qui va sortir de ces négociations, mais on sait d'avance qu'à nouveau, il y aura autour de la, sur la petite place devant le port, il y aura la foule, il y aura les tambours, il y aura la petite camionnette avec la sono et toute cette population, tous ces habitants de Pointe-à-Pitre et d'ailleurs, qui suivent jour après jour, heure par heure, cette lutte, qui est d'abord bien sûr une lutte pour les 200 euros, une lutte pour toute une série de revendications, mais on va le voir à travers cet entretien avec Élie de Motta, qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que ça. On est ensemble donc jusqu'à 16h. Encore quelques messages sur le répondeur de la basse JSU au 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Jacqueline en Vendée. Le repère du Nord Vendée, c'est ce soir, mercredi, à la Pitchouli, place de l'Abbé Grelier à Chalands, de 20h à 22h. Thème, l'agriculture, bio, pas bio, comment ça fonctionne ici, autour de nous, etc. À ce soir.
Encore un détail. J'ai pensé que manifestations qui s'ébranleront au cri de tous ensemble, ça devrait plaire à Ciné, ça, non? Des manifestations qui s'ébranleront. Bon, allez. Je vous laisse.
Bonjour Olivier, le géant loi atlantique. J'aimerais juste que tout le monde comprenne que le MEDEF a beaucoup plus besoin des employés que les employés ont besoin du MEDEF. Ce serait vraiment bien que ça rentre dans les têtes de tout le monde parce que on est les plus nombreux. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Je vous laisse, à bientôt.
Je trouve ça absurde quand jeune, quand tu m'as demandé du travail, il a tous ses diplômes. On le juge pas, non pour ses compétences, mais pour sa personnalité. Faut arrêter ça, monsieur. Faut arrêter ça, faut qu'on arrête ça. Faut que cela cesse. Quand un jeune demande du travail, il a tous ses diplômes, donnez-lui du travail. Ne le qualifiez pas, non pas sous sa personnalité. Faut qu'on arrête ça. L'esclavage est fini.
Quel que soit ce qui se passera, on ne pourra pas faire que ce peuple se transforme en une rangée d'appareils digestifs. On a voulu nous transformer en appareil digestif, consommer ce qui vient directement de France et ensuite passer à la déjection. Alors le nom manifeste aujourd'hui notre liberté. Nous disons non à ce que fait l'État colonial français en Guadeloupe.
Et nous disons à l'opinion française internationale que malgré les Mamblots, malgré la police, malgré la mort de notre camarade Chapineau, rien ne nous fera reculer.
Je crois que en Guadeloupe, il y a 450 000 habitants.
Élie Domota,
chaque semaine,
France 5.
Si nous faisons une manifestation, c'est plus de 100 000 personnes qui descendent dans les rues.
22 février 2009.
Ça équivaut à 15 millions de personnes dans le même lieu en France. Et 15 millions de personnes dans un même lieu en France, je crois qu'on les écoute.
Non à France. Non à France. Non à France. Non à France.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao depuis Pointe-à-Pitre. La Guadeloupe contre la profitation.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors là devant le palais de la mutualité, où c'est, le palais de la mutualité c'est l'interface entre le collectif du LKP et la population qui vient ici aux nouvelles tous les soirs, tous les matins, pour savoir quelles sont les directives ou quelles sont les nouvelles des négociations.
C'est là que ça brasse, que ça se rencontre, que l'information circule, les idées, les rumeurs. Alors depuis le 20 janvier, je pense, hein, c'est comme ça, devant ce palais de la mutualité qui était vide, hein, qui était vide et qui a été réinvesti pour l'occasion.
Et donc là, les camarades ont érigé un totem là devant le palais de la mutualité avec un petit portrait de Jacques Bineau, avec des masques.
Oui, en fait, en gros, c'est souvent les masques, hein, les masques entreprises en Afrique. Donc il y a les couleurs qui se marient, le rouge, le marron.
Et c'est un peu de l'esclavagisme des chaînes jusqu'au l'esclavagisme,
voilà,
du prolétariat. Quoi,
voilà.
Avec,
voilà,
le casque de chantier en bas du totem.
En bas du totem, voilà.
Le casque de chantier, là, il a été peint en noir aussi en signe de deuil. Et c'est vraiment le symbole de la classe ouvrière sacrifiée sur le totem du profit.
Effectivement, les trois premiers masques pourraient faire penser à des masques africains. Et on arrive à la classe ouvrière. Mais en même temps, il y a trois petites calebasses pendues. Et est-ce que ces petites calebasses ne font pas penser à l'héritage amérindien?
Voilà une petite idée des conversations qu'on peut avoir devant le palais de la mutualité à Pointe-à-Pitre, où la foule ne se désemplit pas, si tout le monde est là en permanence, vient voir, discute, c'est par vagues, c'est par marée, tantôt ça crie, tantôt ça rigole, tantôt ça danse, c'est vraiment devenu l'épicentre du monde, et on voit tout de suite que bien sûr, la revendication des 200 euros est indispensable, bien sûr que les revendications des 49 syndicats et associations qui font partie du collectif LKP doivent aboutir, mais on comprend que c'est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que ça, ce qui se passe et les questions qui sont soulevées depuis l'esclavage jusqu'à aux événements au massacre de 1967, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Donc cette société de consommation, nous sommes une colonie de consommation, nous dit Élie de Motta dans l'entretien que vous allez entendre. Une colonie de consommation, nous l'avez dit en arrivant, on est des tubes digestifs, on a dit vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même. Et bien c'est ça, c'est bel et bien ça. Et c'est très simple à voir ce paysage luxuriant, magnifique, ces cieux, ces nuages, enfin toute la beauté, la vraie beauté de ces paysages, complètement conchiés et pervertis par les centres commerciaux, les panneaux publicitaires, tout pousse à la consommation. Et bien sûr que c'est pas sans écho, parce que on est tous Guadeloupéens en ce moment, et notre monde, je parle de la France, je parle de n'importe quelle partie du monde, ressemble tout à fait à cette Guadeloupe-là. Alors bien sûr, voilà ce qu'il découvre, voilà ce qu'il dévoile, et voilà ce que disent les auteurs du fameux manifeste pour les produits de haute nécessité. Toute une série d'auteurs, de Patrick Chamoiseau à Édouard Glissant, en passant par Olivier Pulvar, Jean-Claude William, etc. Je vous conseille de consulter, de découvrir ou de lire à voix haute ce texte formidable sur la situation actuelle. C'est l'analyse qu'ils font et le retour du poétique dans le politique. Et c'est vrai qu'on a complètement perdu la dimension poétique du politique, c'est-à-dire le goût de l'utopie, le goût d'autre chose, le goût de plutôt le ciel que le monoprix. Voici notre vision, disent-ils. Petit pays, soudain au cœur nouveau du monde, soudain immense d'être les premiers exemples de société post-capitaliste, capable de mettre en œuvre un épanouissement humain qui s'inscrit dans l'horizontale plénitude du vivant. C'est beau, c'est ronflant, mais ça fait un bien fou. On est ensemble jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Tonton JR, et pas pendant Guadeloupéen sans système.
Je m'appelle James, je suis Guadeloupéen. Je m'appelle Tennessee, je suis Guadeloupéen.
Ancien nec Guadeloupe.
Gardez-moi bien ou qu'elle va dire j'aime tout mousse. Trois ans en tapis en bas bout de bâton. En bas d'un filet, ça rappelle pour en pompé. En attendant, on trouve un droit de la compote. En bas qu'à bouger, on t'arrête en mise. En bas qu'à bouger, c'est si moins on qu'elle bite. En t'es avec, mais la vérité éclate. Préfère la petite, mais pas qui nous va ma vie. Fermons les parenthèses et ouvrons les dossiers. Les gringels, qu'elle veut dégager la jolle. Vas-y, pas si ni, nous qu'à attendre une réponse. Vas-y, mais réquille, pourquoi on la caille. On est juste à des vitesses, moins ni des montées. On s'est des vices, pas laissé au démonter. Pourquoi qu'il est qu'il laisse le monde à remonter? Quand il veut qu'un combat carré, mais d'où monta? Non, on va qu'à bouger, on va qu'à demander. Non, on va qu'à bouger, on déchaîne la cabane.
Yes, we can.
On peut payer la Obama, répétez ça.
Papa, oui, Boana.
On fait profit, on a malgré l'âge. C'est négatif, mais pas vrai pour un tableau. On s'en tient à caler la semaine et moi en bateau. On l'a pour solution, pas la pour débat.
Bacara qu'il est requillé, 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 bacara qu'il est
requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est
requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est
requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé, bacara qu'il est requillé.
On appelle ça une révolution tranquille. Moi, je pense que plus qu'une révolution, c'est une maturation dans la façon de penser de la psychologie du peuple guadeloupéen. Le peuple guadeloupéen, si le LKP a cette possibilité-là, cette audience-là aujourd'hui, c'est parce que ce LKP reflète tout ce que les gens ont de souffrance et de rancœur et d'angoisse, etc., contre un système qui les opprime. et que ces gens n'ont pas eu à un moment donné la possibilité de le dire ou de le faire savoir. Donc le LKP en fait n'a fait que refléter ce que le peuple, ça se voit d'ailleurs puisque il n'a pas eu à imposer des slogans, il a simplement repris ce que les gens avaient comme problème. Ce sont des problèmes de tous les jours qui sont repris dans une plateforme et présentés aux gens qui sont supposés ou qui sont censés devoir pouvoir les résoudre. Voilà le problème.
Voilà, tout simplement.
Donc, c'est tout simplement.
Alors, qu'est-ce que vous espérez maintenant? Qu'est-ce que vous attendez? Vous suivez le mouvement? Vous êtes là? Vous observez?
Je ne suis pas seulement le mouvement, je n'observe pas seulement, je suis dans le mouvement. Donc, ce que j'attends, c'est, d'une certaine façon, ça s'est déjà produit, ce que j'attends. C'était la maturation psychologique, sociologique d'un peuple qui se rend compte enfin. Parce que c'est pas une histoire seulement politique, c'est pas une histoire économique, c'est pas une histoire sociale, c'est tout ensemble, c'est une histoire sociétale. Les gens ont évolué dans leur tête parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, il y a eu la réconciliation, ce mouvement a permis la réconciliation des Guadeloupéens.
Jusqu'où vous pouvez aller? Jusqu'où les Guadeloupéens peuvent aller là? Ils peuvent tenir encore longtemps? Là, il y a eu 2-3 jours de trêve. Les gens ont pu faire des courses, se détendre, refaire le plein d'essence. Ça peut repartir pour un tour.
Les Guadeloupéens, et pas le LKP, les Guadeloupéens demandent au LKP de tenir jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites.
Voilà les conversations qu'on peut avoir en permanence devant le Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Et nous, on a rendez-vous avec Élie de Motta. Élie de Motta, vous le connaissez, c'est pas possible que vous n'ayez pas vu sa silhouette, ses petites moustaches et ses propos. Très souvent, il parle en créole, mais enfin, parfois aussi en français. On a rendez-vous avec lui. Élie de Motta est secrétaire de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. Il nous attend dans son bureau. Il est très gardé. Il faut montrer patte blanche pour le rencontrer. Et on rentre dans son bureau, volet fermé. Il est peut-être des menaces sur cet homme-là. En tout cas, une très très grande pression. Et il répond aux questions que nous nous posons, mais que vous vous êtes posées inévitablement au cours de ces semaines de grève et de manifestations et surtout de reportages que nous vous avons présentés, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc voici quelques réponses d'Élie de Motta à beaucoup des questions que nous posons et que vous vous posez.
Bon alors, on en est où?
Il faut maintenir la pression parce que ça fait plus d'un mois que nous sommes dans les rues et plus d'un mois qu'on joue avec nous. Je crois qu'il faut aujourd'hui que les patrons s'engagent. Il faut également que l'État s'engage. Les patrons font un effort hier. Les petits patrons ont fait un effort hier. Ils se sont mis ensemble avec les autres organisations patronales. 6 organisations patronales portent une proposition sur laquelle nous on est d'accord. Les collectivités aussi sont d'accord pour supporter cette proposition-là. Manque la réponse de l'État. Donc c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on attend, la réponse de l'État sur le dispositif.
Réponse de l'État, et aussi, vous n'êtes pas d'accord avec le MEDEF, c'est-à-dire avec les gros patrons. Si j'ai bien compris, il y a 6 organisations patronales de petits patrons qui sont dans un collectif, l'UCEG.
La proposition a été faite au départ par l'UCEOG, d'accord? Oui. Ce sont des petits patrons. Et cette proposition a reçu l'agrément des autres organisations patronales comme l'UMPEG, comme la CGPME, comme la FTPE. Enfin, toutes ces organisations-là soutiennent la même proposition. La seule organisation patronale qui fasse un peu bande à part, c'est le MEDEF. Mais je rappelle que le MEDEF, c'est 450 entreprises et c'est à peu près 4000 salariés, alors que les 6 organisations-là représentent grosso modo 42 000 salariés.
Donc c'est en bonne voie, il faut que le MEDEF débloque.
Pas le MEDEF seulement, il faut que l'État aussi dit très clairement ce qu'il a envie de faire dans cette histoire-là.
Et d'après vous, il veut quoi?
On ne sait pas trop. Ils veulent en sortir, mais en même temps, ils refusent eux aussi d'avancer les billes. Ils disent que l'État ne paie pas les salaires du privé, ce qui est logique. Mais l'État peut aider les entreprises du privé, comme il l'a toujours fait, à améliorer leur productivité, à développer leur activité, à maintenir les emplois. Donc, je crois que, à travers les lois Perben, les lois Ponce, toutes les lois Girardin, la loi Pomme et les lois Paul, etc., l'État a toujours aidé les entreprises. Ce que l'État doit faire aujourd'hui, c'est aider les entreprises et singulièrement les petites entreprises à développer leur activité, à maintenir les emplois.
À partir de quand vous considérez que les négociations sont abouties, qu'on peut reprendre la vie normale. Il faut absolument qu'il y ait les 200 euros.
Non, pas seulement. Alors, il y a...
C'est ça, parce que tout le monde pense qu'une fois les 200 euros.
Alors, effectivement, tout le monde s'est un peu focalisé sur les 200 euros, mais il y a une plateforme de revendication sur laquelle il y a 146 points et des points qui concernent prioritairement le pouvoir d'achat et les conditions de vie. D'accord? Mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont pas réglés, notamment la baisse du prix du transport, la baisse des prix des produits de première nécessité. Il y a des propositions qui ont été faites, mais jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas d'accord. Il y a un certain nombre de problèmes aussi concernant l'éducation, concernant la formation. Ce sont des problèmes qui sont très, 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 très importants. Et c'est vrai que cette histoire de 200 euros a un peu occulté, puisque c'est ça qui a focalisé toutes les attentions.
Alors, avant que tous ces points-là soient négociés, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, là?
Je crois que aujourd'hui, il y a une unanimité à dire que la situation est grave et qu'il faut des réponses précises et concrètes. Bon, on a entendu M. Sarkozy l'autre jour parler d'un certain nombre de choses, notamment des états généraux. Ici, nous sommes très prudents car nous sommes habitués aux belles annonces. À chaque fois qu'il y a eu un président de la République ou un secrétaire d'État ou un ministre des DOM, ils nous ont toujours fait de belles déclarations et après, on n'a rien vu. Donc aujourd'hui, par exemple, je crois que dans l'immédiat, il faudrait travailler sur un plan d'urgence pour la formation et l'emploi des jeunes, qui ait des conventions qui soient signées avec les entreprises privées, les établissements publics, les administrations, pour recruter des jeunes durablement. Aujourd'hui, vous passez dans les communes, vous avez 20, 30, 40 jeunes qui sont connus, hein, connus par les maires, par les conseillers généraux, tout le monde les voit, et qui sont là toute la journée, qui ne travaillent pas. Et ça, il faut faire quelque chose. Autrement, je crois que l'avenir de la Guadeloupe est dans l'ombre.
Oui, peuple amendé des 100 euros.
Je sais le sentiment d'injustice qui vous habite face à des inégalités, à des discriminations, qui vous paraissent à juste titre, j'emploie le mot, intolérable. Ce sentiment d'injustice, je le comprends, je le partage.
Peuple amendé des 100 euros, c'est pour nous répéter Italie.
Le président de la République annonce des mesures concrètes pour dénouer la crise. Il propose un effort supplémentaire de l'État de 580 millions d'euros et une batterie de mesures. Une prime exceptionnelle payée par les patrons, exonérée de charges qui avoisine les 200 euros.
Les 200 euros c'est bien, mais c'est pour les gens qui travaillent. Nous on ne travaille pas, donc ça sert à rien.
Monsieur le secrétaire d'État nous dit dans une de ses tribunes que l'outre-mer a besoin d'amour, d'un amour sincère. Non, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre, votre gouvernement n'a rien compris à l'outre-mer. L'outre-mer a besoin de respect, d'équité, d'égalité, de justice sociale, pas de compassionnel.
À l'opinion française internationale que malgré les Mamblots, malgré la police, malgré la mort de notre camarade Chapineau, rien ne nous fera reculer et nous ferons tout en œuvre pour que le MEDEF également s'assoie à la table de négociation et négocie. Et nous disons que le temps des tergiversations est fini. C'est le haut patronat et les béquets qui refusent de partager.
Comment vous expliquez que ce mouvement ait un tel écho dans le monde entier?
Ben, disons que aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des retombées de la crise financière.
Elie Domota.
Et tout le monde est en train de dire, oui, voilà les premiers soubresauts. Alors.
Porte-parole du LKP.
On peut pas dire que la Guadeloupe a été directement touchée par les effets de la crise financière. On n'a pas de grandes industries, mais c'est vrai que la situation que nous vivons depuis tantôt s'est un peu dégradée encore un peu plus ces derniers temps. Et aujourd'hui, je crois que la façon dont les choses ont été menées en Guadeloupe à attirer l'attention, parce que c'est pas souvent qu'on voit un mouvement de grève générale qui dure un mois. Et je crois que ça, ça a touché beaucoup, beaucoup de personnes à travers le monde. Et c'est vrai qu'il y a des médias du monde entier qui voient pas de la Guadeloupe.
C'est quand même la première fois que vous avez à la fois, dans la même journée, CNN, Al Jazeera, qui vient vous interroger.
Ouais, ouais. Et on était très étonnés. Même des Allemands, des Suédois, des Portugais, enfin, des Brésiliens qui nous appellent. Et c'est vrai que ça pose des questions. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a tout un système qui exploite, qui broie les hommes et les femmes de par le monde. Et ce système-là, eh ben, il faut qu'il change.
C'est ce que vous appelez la profitation.
La profitation.
Comment vous traduisez profitation?
La surexploitation, peut-être.
Alors, expliquez-moi quand même comment vous en êtes arrivé là. Comment tout ça a commencé, si on peut revenir un petit peu en arrière.
Depuis pratiquement 6-7 ans, on travaille régulièrement. Toutes les organisations syndicales, on travaille ensemble hein, de temps en temps pour élaborer ce qu'on a appelé un programme de revendication de la classe ouvrière. Et depuis 7 ans, on s'était jamais mis d'accord. Et chaque année, on se retrouve, on fait le 1er mai ensemble. Et après, ben, on se quitte et on se revoit quasiment sur des points bien précis et pour bien on se revoit le 1er mai suivant. Ce coup-ci, il y a différents problèmes sur lesquels nous, de notre côté, on a travaillé et puis les autres organisations aussi, c'est les problèmes des prix. Et singulièrement, le prix du carburant. Et à partir du prix de carburant, eh ben, on a eu l'idée de se rencontrer et puis de poser les problèmes qui concernent l'ensemble des Guadeloupéens, tout secteur de la civilité confondu. Et on s'est rendu compte, enfin pas s'est rendu compte, d'une évidence, c'est que chacun travaillait de son côté. On avait une vision de la Guadeloupe et rassembler ensemble l'ensemble des visions, eh ben, nous donnait une vue globale de la situation générale. Et c'est comme ça que tout a démarré en décembre. Une première manifestation. Le sous-préfet nous a reçus, mais nous a dit qu'il n'avait pas grand-chose à nous dire. Le lendemain, le préfet ne nous a pas reçus et nous avons pris rendez-vous pour le 20 janvier. Et du 17 décembre au 20 janvier, nous avons sillonné la Guadeloupe pour faire des meetings, pour écouter les gens, pour discuter avec les Guadeloupéens, pour connaître ce qui se passait.
Comment vous expliquez quand même que vous avez un tel soutien? Parce que vous dites que les organisations syndicales, ce sont des organisations syndicales de gauche, voire même d'extrême-gauche, qui sont sur cette plateforme. Comment vous expliquez que tout le, enfin, pas tout le pays quand même, mais une vraie majorité du pays vous soutient, y compris des gens qui sont pas franchement d'extrême gauche, ou même pas de gauche du tout.
Mais le LKP, en fin de compte, c'est un rassemblement de 48 ou 49 organisations. Des organisations syndicales, des organisations politiques, des organisations de défense de l'environnement, des associations de défense des locataires, de défense des consommateurs, des mouvements culturels. Enfin, toute une panoplie de structures qui sont pas forcément syndicales ou politiques. Ça a fédéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à travers les différentes revendications qui étaient posées. Deuxième chose que ça nous a fait voir aussi, c'est que la majorité des Guadeloupéens vivent dans des situations sociales très, très délicates. En fin de compte, le LKP est devenu la voix des sans-voix, ou bien la voix de toutes les voix.
Ce qui frappe quand on regarde un peu votre pays, même sans être spécialiste évidemment, c'est les inégalités. En calcul moyen, la Guadeloupe doit pas être un pays particulièrement pauvre, mais ce qui est formidable, c'est l'absence totale de répartition, de redistribution.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Hein. Enfin, quand on regarde
ça, votre problème.
Quand on regarde le PIB par habitant dans la Caraïbe, on est riche, hein. Mais il y a un problème de répartition des richesses. Et c'est là où il y a une grosse difficulté.
À la fois avec ce constat que vous faites là, qui est très simple, que tout le monde fait un peu partout dans le monde, parce que ça, c'est pas exclusif évidemment à la Guadeloupe, et puis cette unité que vous avez réussi, c'est toujours l'unité, toujours désirée et jamais atteinte, est-ce que vous pensez que vous allez faire modèle? Parce que il y en a à Paris qui craignent la contamination, comme vous savez. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être une maladie qui se transmet?
Bon, on espère. On espère. Disons que on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Martinique. D'ailleurs, il y a les camarades martiniquais qui étaient là samedi et dimanche. On suit aussi ce qui se passe à La Réunion, en Guyane et également en France. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les organisations syndicales doivent se mettre ensemble avec les associations pour exiger une modification des politiques publiques. Il est trop facile pour les gouvernements, notamment le gouvernement de M. Sarkozy, de donner des milliards aux banques, de donner des milliards aux spéculateurs, aux industries automobiles et qui le lendemain licencient des travailleurs par dizaines de milliers.
Oui, alors justement, comparons les deux chiffres. Quand vous aurez obtenu les 200 euros que vous souhaitez, ça fera combien par rapport justement à ce qui a été donné aux financiers, aux banques?
Rien du tout, rien du tout.
Une queue de cerise, vous vous battez pour des queues de cerise.
Oui, oui, mais monsieur Sarkozy sait très bien que cette queue de cerise, après, il faudra donner l'ordre. Parce que...
On va donner cerisier avec.
Oui, oui, ouais, parce qu'à fin de compte, ici, c'est 80 000 personnes qui sont concernées à peu près, les salariés du privé. D'accord? Bon, ça fait peut-être 100 ou 150 millions. Eh bien, en France, c'est 64 millions de Français et 300 millions d'Européens. Parce que si la crise rentre en France, elle traverse l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, l'objectif des gouvernements, c'est de donner de l'argent aux spéculateurs, aux banquiers pour maintenir un système en place et non de donner de l'argent pour maintenir les emplois, éviter les licenciements et augmenter les salaires.
Nous payons pour qui nous qualités.
Nous payons pour quoi nous luttons. C'est pour le respect que nous luttons.
Pour dignité en nous.
Pour notre dignité que nous luttons.
Pour les 100 euros nous
battons. Pour les 200 euros que nous nous battons.
C'est pour petit en nous qualités.
C'est aussi pour nos enfants que nous luttons.
Les
répondeurs, répondez. Reprenez en écho.
Étant
brouillé, allez frapper le cas, jouer de la musique pour que je puisse continuer. C'est pour notre respect que nous luttons.
Pour
notre dignité que nous luttons.
C'est pour l'égalité
que nous luttons. C'est pour un bon pouvoir d'achat que nous luttons.
C'est pour
notre éducation que nous luttons.
C'est
pour nos enfants que nous luttons.
C'est
pour nos enfants que nous luttons.
Pour
qu'ils puissent travailler dans ce pays.
Pour
qu'ils puissent travailler dans ce pays. C'est pour les travailleurs que nous luttons.
C'est pour les
chômeurs que nous luttons.
C'est
pour la jeunesse que nous luttons.
Pour
notre dignité que nous luttons.
Pour
nos droits que nous luttons.
Voilà, rencontre avec Élie Lobota, le leader et porte-parole du LKP, Lianage contre profitation, 49 associations et syndicats dans ce groupe qui, depuis le 20 janvier maintenant, mobilise la Guadeloupe, mais mobilise toute l'attention du monde. Allons vers les critiques maintenant. On nous dit, oui, mais derrière ça, ils veulent l'indépendance. De Motta, c'est un indépendantiste, et ce qu'il veut, c'est l'indépendance. Et ils sont déguisés, ils sont masqués, c'est des indépendantistes masqués. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez?
Ben je dis, si quelqu'un croit pouvoir aller à l'indépendance avec la plateforme de revendication du LKP, là, qu'il y aille, mais sans moi. Je crois qu'aujourd'hui, dans le LKP, vous avez des communistes, vous avez des trotskistes, vous avez des gens qui sont prêts, proches du PS, vous avez des gens qui sont à l'UMP, d'accord?
À l'UMP même.
À l'UMP même. Vous avez des gens qui sont chez les Verts et vous avez des gens qui sont de tout bord politique confondu. Et je ne pense pas que tous ces gens-là aient la même vision de l'avenir de la Guadeloupe. Première chose. Deuxième chose, c'est les Guadeloupéens, le peuple guadeloupéen qui choisira en âme et conscience ce qu'il a envie de faire de son pays et de son avenir. Bonjour, prisonnier. Là, il a été arrêté ce matin, on vient de le libérer.
Ah bon? Oui, alors mais vos convictions à vous, en ce qui concerne l'autonomie, l'indépendance de ce pays?
Je crois que tout être sur terre défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je crois que un jour ou l'autre, la Guadeloupe fera partie des nations de ce monde. Et comme tout peuple, nous aspirons au droit du peuple guadeloupéen à disposer de lui-même. Mais la question n'est pas posée dans le cadre du LKP, du tout. Je crois que quand on regarde la plateforme de revendication, on voit qu'elle est qu'il y a trois niveaux, hein, enfin deux ou trois niveaux. Un niveau sur ce qu'on appelle l'immédiateté, les conditions de vie, le pouvoir d'achat, les salaires. Et d'autres choses sur l'aménagement du territoire, sur l'éducation, la formation, sur la production agricole, des choses qui doivent nous faire changer de vie. Mais je crois que le combat politique pour l'émergence d'un État, pour l'indépendance de la Guadeloupe, on en est loin.
On en est loin, mais c'est quand même votre combat.
Au niveau du LKP, non.
au niveau de El Capé, mais au niveau de Elido Motta, c'est son combat, c'est l'un de ses combats, c'est l'une de ses aspirations qui s'inscrit d'ailleurs dans toute l'histoire du pays, enfin.
Non, de toute façon, je suis secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, et dès son congrès de 1975, l'UGTG s'est positionné pour l'indépendance nationale de la Guadeloupe. Mais ce n'est pas ce combat-là que nous menons au El Capé. Je crois autrement, si c'était ce combat-là qui était mené au El Capé, on serait pas 49 organisations avec des visions différentes à être ensemble, bien au contraire.
Oui, oui, c'est ça, bien au contraire, puisque la majorité des Guadeloupéens ne se voient pas dans un pays indépendant.
Mais pas pour l'heure, ça c'est clair. Si vous faites un sondage, je pense pas que l'indépendance recueillera plus de 5 ou 6%, je ne pense pas.
Et actuellement, si on faisait un sondage pour savoir quel est le pourcentage de Guadeloupéens qui soutiennent le LKP, ça donnerait quoi d'après vous?
Je ne sais pas, mais je crois que une majorité de Guadeloupéens soutiennent, même si la situation est très difficile. Les écoles sont fermées, il y a des commerces qui sont fermés. La situation est difficile, mais je crois que les gens ont envie de changer de vie. Ils ont envie que leur vie s'améliore. Ils ont envie d'avoir... Vous imaginez, les seules augmentations de salaire que connaissent les gens qui sont surtout les salaires du privé, hein, ce sont les augmentations annuelles du SMIC. Autrement, rien du tout, hein. Il n'y a pas de politique salariale dans les entreprises. 80% des entreprises ne font pas de négociations annuelles sur les salaires. Les conventions collectives, quand elles existent, ne sont même pas appliquées. Les branches professionnelles n'existent pas. Donc, les gens ont envie de changer de vie. Et surtout pour leurs enfants.
Un autre sujet qui revient tout le temps, c'est la question du racisme. On a eu des mails pendant notre émission, d'ailleurs pas forcément des gens qu'on a rencontrés, mais qui ont envoyé des mails en disant « Ah, c'est du racisme anti-blanc ». Je vous dis pas que tout le monde nous a dit rejet et un malaise.
Oui, oui. Non, mais ça, il y a un certain nombre de personnes, surtout sur Internet, qui font remonter ça. Ça nous étonne pas. Mais je crois que ce qu'il faut poser, donc la question aux touristes, aux gens qui sont là, pour savoir comment ils vivent ça, du tout, il n'y a pas de racisme. Je crois que il y a une volonté de décrédibiliser le mouvement, d'accord, en le mettant sur le champ de l'indépendantisme, comme si être indépendant c'était une maladie ou bien c'était une honte, voilà. Et heureusement que De Gaulle était pour l'indépendance de la France, ou sur le terrain racial. La Guadeloupe est construite sur des rapports de classe et de race depuis 400 ans. Ça, c'est un constat. Au sommet de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle chez nous les blancs pays, ou les béquets en Martinique, et en bas, vous avez les Guadeloupéens qui sont d'origine africaine et indienne. Et c'est comme ça depuis 400 ans. Les richesses sont accumulées au sommet et ne sont pas redistribuées en bas. Alors, quand on dit ça, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Et il y a un truc qui, entre guillemets, qui m'a fait un peu plaisir. C'est lorsqu'on a discuté avec Monsieur Gigot, il m'a dit une phrase que j'ai retenue. Monsieur De Mota, j'ai réuni l'ensemble de mes chefs de service. J'ai vu qui dirige et qui exécute. Il faut changer ça. Et il a même proposé dans le cadre des discussions qu'ils mettent un truc dans le genre, je ne me rappelle pas, un cap à venir, comme ça a été fait en Nouvelle-Calédonie, de promotion des autochtones sur des postes à responsabilité au sein des administrations. La région, qui n'a pas hésité à dire aussi que c'était du racisme, ben propose dorénavant une charte pour l'emploi local, pour la promotion de l'emploi local. Je crois qu'il faut faire ça. La paix sociale ne peut pas exister dans un pays où la majorité des enfants sont exclus. Il n'est pas normal aujourd'hui, par exemple, qu'il y ait un hôtel au AD qui soit dirigé par un groupe suédois et que sur 80 salariés, il y ait 60 Suédois et 20 Guadeloupéens. C'est gênant dans un pays où il y a 40% de chômage. C'est pas normal. C'est pas normal que des offres d'emploi ne soient pas diffusées ici, mais soient diffusées à Paris, et que le personnel arrive directement par l'avion, alors qu'ici, on a 40% de chômage. C'est pas normal, alors que les compétences sont là. C'est pas normal. Donc, dire ça et se faire traiter de raciste, bon, je trouve ça un peu fort.
Ce qui frappe beaucoup dans votre pays, c'est la consommation. Tout a l'air d'être tourné vers la consommation, voué à la consommation, avec des quartiers. Vous avez un carrefour qui est un des plus grands d'Europe.
Certainement le plus grand.
Certainement le plus grand. Partout des panneaux pour acheter machin, etc. Les portables, les bling-bling, les bagnoles, etc. Vous êtes des consommateurs, vous êtes des tubes digestifs.
Oui, nous sommes une colonie de consommation.
Nous sommes une colonie consommation. Alors aujourd'hui, vous savez, il reste en Guadeloupe 45 000 hectares de terres agricoles à peu près. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs le LKP se bat pour ça aussi, pour le maintien des terres agricoles, pour le développement de la production agricole et pour un développement de la production agricole qui aille vers l'autonomie alimentaire. Quand on dit autonomie alimentaire, c'est un grand mot, hein, parce qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde avec notre production, mais il faut produire en Guadeloupe en priorité pour nourrir le Guadeloupéen. Aujourd'hui, les principales productions agricoles de la Guadeloupe sont tournées vers l'exportation. C'est ce qu'on appelle l'agriculture coloniale. La canne et la banane sont là, non pas pour nourrir le Guadeloupéen, mais pour enrichir de riches propriétaires.
Vous avez gardé l'économie coloniale.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les terres sont toujours la possession des arrière-petits-fils des maîtres. Hein. D'accord. Il faut changer, il faut changer, il faut se diriger vers l'autonomie agricole, vers l'autonomie alimentaire, vers la production agricole, et faire en sorte que la Guadeloupe ne soit pas une terre de consommation des surplus de la production européenne. Et ça, il faut que tout le monde l'entende, parce que les arrière-petits-fils de propriétaires d'esclaves, qui sont guadeloupéens, hein, comme nous, hein, ils se sont recyclés dans l'import-distribution. Et aujourd'hui, eh bien, ils contrôlent tout le commerce à tous les niveaux, hein, que ce soit les produits alimentaires ou non alimentaires. Et la Guadeloupe est devenue une véritable plaque tournante de la commercialisation des surplus de
l'État. Et c'est ça la profitation et c'est ça vos adversaires aujourd'hui.
Oui, c'est l'une des formes de la profitation. Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle des prix, on nous a souvent dit que si les produits coûtent beaucoup plus cher ici, c'est parce qu'il y a le transport et il y a le carburant. En fin de compte, quand on vérifie bien avec nos camarades douaniers, ben non, un produit qui sort de France, par exemple, arrivé ici, devrait coûter en moyenne 10 à 15% maximum plus cher. Or, les coûts varient entre 30 et 80%, tout simplement parce qu'il y a des marges exorbitantes que certains se mettent dans les poches.
Le cyclone n'est pas la seule catastrophe des Antilles. Les pesticides font aussi des ravages. Pour les Antillais, le constat est alarmant.
France 2.
Les insecticides utilisés pour les plantations de bananes en Martinique et en Guadeloupe
30 décembre 2008
seraient à l'origine d'un désastre sanitaire. Terre polluée et risque de cancer. Le chlordécone, c'est le principal pesticide utilisé dans la production de bananes. Les États-Unis l'ont interdit en 1976. La France, seulement en 1990, et il faudra attendre 3 ans de plus pour les dom-tom. Aujourd'hui, il sera difficile de s'en débarrasser.
Élie, vous parlez d'indépendance alimentaire, mais il y a un problème énorme dont il ne faut pas parler, c'est le chlordécone. Là, il y a un énorme sujet. Dès qu'on aborde le sujet, on dit, est-ce que vous n'avez pas une autre question? C'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce que personne ne veut voir.
Ben, disons que, parce que l'État y est mêlé au premier titre, parce que...
Élie Domota.
Lorsque ce produit-là a été révélé comme étant nocif aux États-Unis et interdit à la vente...
Porte-parole du LKP.
Les propriétaires fonciers, notamment Martinique et Guadeloupe, les grands propriétaires, ils ont réussi à racheter la formule chimique, à refaire un brevet, changer le nom du produit, et ils ont eu toutes les autorisations de mise sur le marché. Et la première personne, je crois, qui a autorisé la mise sur le marché, c'était Monsieur Chirac, qui était ministre de l'Agriculture au début des années 70. Et après, tous les ministres de l'Agriculture, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont continué à donner les autorisations de mise sur le marché alors qu'ils savaient ce produit interdit aux États-Unis et nocif. Donc, tout le monde y est mêlé, et aujourd'hui, c'est choquant pour nous de nous entendre dire par des spécialistes, un généticien, je sais pas quoi, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, que si nous avons aujourd'hui un taux de cancer de la prostate et d'autres cancers supérieurs à la moyenne mondiale, ben c'est peut-être parce que nous avons des prédispositions génétiques à. C'est particulièrement choquant. Ou bien aujourd'hui, on est en train de nous dire, le chlordécone, c'est pas bon, mais on va nous donner un seuil de chlordécone que notre corps peut supporter.
Un peu, quoi, s'habituer voilà. Au chlordécone.
Alors, c'est comme si vous preniez une cuillère, une petite cuillerée de mort à tous les jours. Vous savez que c'est du poison, mais bon, habituez-vous à ça. Non, c'est pas sérieux.
Oui, c'est pas sérieux, sauf que il y a une partie des terres qui sont contaminées. Les terres où vous voulez faire de l'autonomie alimentaire et développer l'agronomie, mais voilà, il y a un cinquième des terres qui sont contaminées en Guadeloupe.
Même sur ce chiffre-là, tout n'est pas clair, mais ce qu'il faut justement, c'est répertorier les terres qui sont contaminées, voir avec les spécialistes qu'est-ce qui est possible de faire sur ces terres-là, parce que il y a des productions qui sont possibles. Toutes les productions, notamment les productions de tubercules, ne sont pas possibles, mais il y a des productions qui sont possibles. Donc, voir quelles sont les productions qui sont possibles, car il ne s'agit pas non plus de jeter le discrédit sur l'agriculture guadeloupéenne. Toutes les terres ne sont pas contaminées. et il y a possibilité de produire sur les terres qui sont contaminées au chlordécone d'autres produits dont les fruits ne reproduisent pas la molécule du chlordécone.
Mmh. Ouais, yo, yo, ya, ya, ya. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade, messieurs. Mais nous trouvons remède, messieurs, pour nous sauver pays là, mes amis. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères. Fais nous trouvons, oui, mais c'est pour nous sauver, pays là, mes amis.
Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Fais nous trouvons, oui, mais c'est pour nous sauver, pays là, mes amis.
Pépépépépépépépé. C'est pas parler là, là. Pour nous sauver pays là mes amis,
hey!
La Guadeloupe malade, oh là là.
Qu'est-ce que vous allez faire après?
J'ose caresser l'espoir que je pourrai aller faire mes courses sous le marché, comme d'habitude. Ces jours-ci, ça va être un peu difficile, mais je n'ai aucune ambition politique particulière, hein.
Vous êtes quand même un lutteur social, vous êtes un lutteur politique.
Oui, mais la transition passée dans le mouvement politique ne m'intéresse pas. Et je ne pense pas que ça soit judicieux non plus. Je laisse la place à ceux qui veulent le faire. Je crois que l'objectif, c'est d'aider, d'améliorer la vie des Guadeloupéens. Et je crois que le plus gros travail qu'il y a à faire, c'est au niveau de la jeunesse. Trouver les moyens de former et d'aider les jeunes à trouver du travail.
Vous avez un seuil de chômage chez les jeunes monstrueux ici. Vous êtes le champion d'Europe avec 56% de chômage chez les jeunes de 16 à 24 ans. C'est encore.
Oui. Guadeloupe et Guyane, je crois que c'est nous qui sommes les champions. C'est impensable. Quand vous avez pratiquement 1000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans formation, sans qualification, ils trouvent pas de formation, ils trouvent pas de boulot, faut pas être étonné après qu'il y ait beaucoup de violence dans les rues, faut pas être étonné après que les jeunes soient debout au bord des routes et ne sachant quoi faire. Il faut qu'il y ait une politique publique en faveur de l'insertion de la formation.
Vous avez été débordé par moments justement par cette jeunesse, certaines nuits, je pense à la nuit de la mort de Jacques Binot par exemple, on avait rencontré des jeunes sur les barrages qui se réclament complètement du mouvement et qui sont très conscients de ce qui se passe et qui sont en liaison avec le mouvement, avec le collectif, mais on a vu aussi sur d'autres qui sont complètement cinglés et qui sont là pour tout faire péter quoi.
Non, parce que il y a une forte désespérance hein, au niveau de la jeunesse et ce qui nous a surpris, même nous, qui avions déjà dit que la situation était catastrophique, c'est de voir que au-delà de la conurbation Pointe-à-Pitre, Abim-Gosier, mais c'était toute la Guadeloupe qui était concernée, y compris les communes les plus lointaines de l'agglomération pointoise. Et c'est vrai que la situation est très 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 délicate. Alors, M. Sarkozy a parlé dans son allocution d'augmenter les quotas au niveau de formation, au niveau du RSMA, le régiment de service militaire adapté. Mais c'est pas suffisant.
Vous êtes prêt à tenir combien de temps là les négociations reprennent? Vous pourriez tenir encore des semaines ou bien faut vraiment il y a quand même une usure, il y a quand même une fatigue. C'est difficile pour vos compatriotes.
Oui, c'est difficile, mais je crois qu'au point où nous en sommes, je crois que la marche arrière n'est plus possible. Tous les Guadeloupéens se sont organisés pour tenir. Je crois que aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il s'agit de changer la vie et que tout le monde reste mobilisé pour gagner.
Ceux qui connaissent la Guadeloupe appellent le papillon. C'est lorsqu'elle bat ses ailes, c'est pour pouvoir jeter les profiteurs, les exploiteurs. L'LKP, s'est créé dans le pays. C'est un collectif pour défendre le droit des Guadeloupéens. Ne touchez pas au pays. Nous avons des motards, nous avons Tacita, nous avons deux motards pour défendre le pays. Le préfet, M. Desforges, nous prend pour des imbéciles. Mais il a quitté la table de négociation lorsqu'il a entendu nos représentants parler.
C'était un reportage de Daniel Mermet et Antoine Chao. Merci à Teddy Pellissier, Nicole Rapon et Gérard Tourtrol. Merci également à David et Margot ainsi qu'à leurs enfants. Et merci à Radio Tanbou que vous pouvez écouter sur radiotanbou.net, radiotanbou.net. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Florent Layani. Réalisation Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry. Répondeur Agnès Lebotte et le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.